au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité structure sa pensée musicale en s'inspirant des musiques passées et des musiques actuelles. À titre de compositeur, fasciné dès le début de sa carrière par la théâtralité, la dramaturgie, l'histoire, la technologie, il a beaucoup écrit de musique de scène. Ainsi, il a participé ici et en Europe à la création musicale de plus de 200 projets scéniques au cours des 35 dernières années. Aujourd'hui, il va nous faire découvrir la suite de son concerto pour pipa et orchestre, concerto surnommé Dragon, interprété par la virtuose internationale Yu Fang et de l'orchestre Philharmonique sous la direction de Francis Choinière. Cet orchestre, d'ailleurs créé en 2015, se consacre presque exclusivement à la musique de film. Avec nous, avec grand plaisir, on accueille Christian Thomas. Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour. Vous avez passé une bonne semaine.
Une très, très bonne semaine. Je vous remercie.
On a réécouté ces deux premiers mouvements. On ne voulait pas brûler la mèche. On s'est dit, il y en a deux autres qui s'en viennent. L'œuvre est tellement belle. Mais je disais dans ma présentation que vous avez toujours été attiré par le théâtre ou la scène de façon générale. Vous avez beaucoup écrit pour la scène.
Beaucoup. Je dois beaucoup à la scène parce que j'ai commencé à travailler au théâtre à Montréal en 1985 avec Claude Poisson et les projets se sont enchaînés les uns aux autres avec René Richard Cyr, avec Monique Duceppe, Daniel Roussel, André Brassard. Bref, beaucoup de metteurs en scène, Denise Filiatro.
Et pas juste le théâtre, l'opéra aussi.
À l'opéra, c'est...
René Richard Cyr, j'imagine.
René Richard Cyr, en fait, ce que j'ai fait avec René Richard Cyr, j'ai fait une première comédie musicale à l'époque au théâtre Denise Pelletier, à la NCT, ça s'appelle Au pied de la lettre. Mais j'ai fait d'autres projets de théâtre avec René Richard, vraiment tout aussi fascinants les uns que les autres.
Qu'est-ce qui est, le principal défi quand on écrit pour le théâtre?
Mon Dieu, je pense que c'est la... le principal défi, c'est on doit évidemment s'inspirer beaucoup de l'œuvre, de ce qu'on lit. On doit la musique devient parfois sort. C'est pas toujours de la musique de fonction. Parfois, la musique devient un personnage en tant que tel, et elle a aussi quelque chose à révéler, une partie de soit du mystère, de l'intrigue, peu importe la façon dont on l'approche. Selon moi, la musique doit aussi, a souvent dans mes productions pris la place d'un personnage. Et je me suis toujours plu un peu à suivre cette piste qui s'est montrée révélatrice à plusieurs égards.
Est-ce qu'au théâtre, c'est un peu comme au cinéma? On sait toute l'importance qu'occupe la musique au cinéma. Il y a des films qui seraient peut-être passés inaperçus s'il n'y avait pas eu des musiques extraordinaires pour rendre l'histoire encore plus éclatante. Et récemment, d'ailleurs, on parlait la semaine dernière d'Ennio Morricone, qui a contribué beaucoup à rendre, entre autres, Sergio Leone un grand réalisateur. Mais quand on y pense, les films de Western Spaghetti étaient... quand même, c'était pas des films si extraordinaires, mais la musique en a fait des films extraordinaires. Est-ce que c'est la même chose pour le théâtre?
On souhaite. Il faut qu'on nous laisse aussi la place d'exercer ce pouvoir d'attraction.
Et est-ce qu'on vous la laisse, cette place?
Oui, généralement. Mais des fois, puis c'est pas les metteurs en scène. Je travaille beaucoup aussi avec Alain Zouvi, en ce moment, Benoît Brière. On a parfois la place pour se commettre musicalement parce que ça devient vraiment un moteur de l'intrigue. Mais parfois, on a des textes qui sont très parlés ou... on n'a pas beaucoup de moments où on peut insérer de la musique. Et à ce moment-là, la musique va tenir un rôle vraiment de soutien en arrière, des fois dans des tensions, des moments où elle n'est pas particulièrement mélodique. Alors que dans d'autres productions, on va pouvoir jouer un rôle plus de premier plan.
Je comprends.
Un peu comme au cinéma.
Tout à fait. L'heure est venue d'y aller avec ce concerto pour pipa et orchestre, concerto intitulé Dragon. On est rendu au troisième mouvement. Là, on a vu Bébé Dragon, on a illustré Bébé Dragon, on l'a vu son éveil de conscience. Là, voilà que maintenant, il est adulte, on peut dire.
Bon, oui.
Il est probablement adulte. Et là, il doit probablement affronter des intrus, vivre certaines confrontations. Est-ce que c'est ce qu'on va entendre dans le troisième mouvement?
Oui, j'aimais beaucoup cette analogie avec... Il y a une espèce de combat qui va se mener, des forces en présence c'est un peu comme si on venait souiller un peu un univers protégé, un univers où il y a beaucoup de richesses et qu'on décidait vraiment d'entrer dans cette comment on pourrait parler d'une espèce de paradis, de lieu où tout est préservé, mm-hmm. avec des gros sabots, et on va décider d'entrer et de s'approprier toutes les richesses qui y sont, repartir en laissant un dégât magistral. C'est un petit peu l'image que je voulais soutenir en écrivant le troisième mouvement. Et alors, le dragon devient tout à fait ce qu'on attend de lui, un défenseur, un protecteur. Parce que dans toutes les mythologies, le dragon aussi détient certains secrets. Les secrets, par exemple, de la vie éternelle ou il devient un peu le gardien d'une richesse. Que ça soit écologique ou... moi, je le voyais un peu comme un protecteur de ce qui nous nourrit, d'un univers où on s'alimente, on s'abreuve, et il est essentiel à nos vies, quoi. Voilà la notion que j'ai voulu défendre dans le troisième mouvement, le gardien, le protecteur.
On vient d'entendre l'orchestre philharmonique sous la direction de Francis Chouanière, Liu Fang au pipa, concerto, troisième mouvement, composé par notre invité Christian Thomas. On va enchaîner rapidement, Christian, si vous voulez bien, avec un univers différent. C'est une pièce que vous nous proposez. Honnêtement, je pense que c'était, lorsque j'ai préparé l'émission, c'était ma première écoute de cette œuvre que je ne connaissais pas. C'est une œuvre de Prokofiev, c'est la sonate numéro 3 en La mineur, opus 28. C'est un peu déstabilisant la première écoute, n'est-ce pas? Pourquoi cette œuvre?
Parce que, mon Dieu, moi je lui trouve toute une espèce de force et de dynamisme. Il y a quelque chose aussi dans les compositeurs russes, parfois, qui se dégagent. On est loin du concerto numéro 1 de Tchaïkovski. On est dans quelque chose de très... c'est une espèce de tempête.
Ça commence par une tempête.
Oui, c'est ça. Puis c'est un mouvement très intempestif. Et puis, moi, j'aimais beaucoup cette espèce de côté pianistique qui ressemble un peu à une toccate qui est frappée puis qui est très, très... dynamique. Et ça m'impressionnait, ce mouvement-là. Alors, je l'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, il y a aussi un côté très, très mélodique dans le deuxième mouvement qui nous habite. Bref, c'est un auteur que j'aime beaucoup, Roméo Juliette de Prokofiev. J'aimais beaucoup aussi les concertos pour piano. C'est un compositeur qui avait beaucoup d'attraction pour
Et on va entendre cette œuvre sous les doigts de Daniil Trifonov. J'ose croire que j'ai la bonne prononciation.
Oui, et c'est un russe.
Bien sûr. Thank you. Oui, la tempête est passée. Christian Thomas est avec nous. Quand vous parliez tantôt du dragon avec la confrontation, la maturité aussi, quand on revient dans votre enfance, la semaine dernière, on évoquait le village paisible, la découverte auprès des grands-papas, mais ça n'a pas toujours été de tout repos. Si on revient à l'école, vos jeunes années d'enfance. Et si je vous parle d'une école en particulier, c'était Saint-François-Xavier, c'est exact?
OK, oui.
Il y avait des cahiers d'intimidateurs, paraît-il.
Ah ben oui.
Et vous étiez une proie facile.
Oui, probablement, parce que il y avait une différence. Tu arrives de la campagne, tu as un accent forcément qui est très différent de ceux de la ville. Je venais de la Beauce, il y avait des prononciations qu'on
disait. Et Saint-François-Xavier, cette école-là était située à quel endroit?
C'était à Québec, à Duberger. Et puis, je me souviens de ce passage-là, parce que c'est un peu tristounet de poursuivre ses études, puis d'avoir... T'sais, déjà, la concentration, il faut qu'on la trouve en soi, il faut qu'on soit fort. On ne peut pas non plus toujours parler. Tu reviens à la maison, puis tu n'as pas forcément envie de t'exprimer là-dessus. Puis, t'sais, il fallait que je sois...
La
peur nous habite, oui.
C'est ça.
Il y a beaucoup de... On se sent un peu inférieur par moment. Et puis, moi, j'étais introspectif. Alors, peut-être que ça m'a aussi habité cette espèce de... de ne pas faire partie de la gang et d'être un peu... tout mon univers solitaire s'est révélé à moi. Et puis... On a à l'intérieur de soi une voix qui nous parle, qui nous dicte des choses. On a une voix intérieure qui s'adresse à nous et qui nous soit nous encourage ou soit nous on a notre discours intérieur.
Voilà.
Alors j'ai pris conscience un peu de ma solitude, mais je me suis fait des amis par la suite et ça est. Après ça, j'ai été capable de recréer ma vie comme je le voulais, mais non dans la solitude.
Tous les incidents qui peuvent être négatifs peuvent nous ouvrir d'autres voies plus positives.
Tout à fait.
On va mettre un baume sur cette période-là après plusieurs années,
oui,
en écoutant la pièce « Mélodrame », parce que c'était presque un mélodrame que vous avez vécu.
Oui.
C'est une pièce qui a été composée par Pier Paolo Guerini et Paolo Luciani. Elle est interprétée par Andrea Bocelli et le violoncelliste très populaire Hauser.
Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande. la canto e sento tutto il mio dolor, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Vengo il mattino tra i canti un gran mulino, lì è nato il mio destino.
Avouez, Christian, que c'est très apaisant comme pièce.
Absolument. C'est d'ailleurs un magnifique interprète, hein? Les
oui.
deux ensemble,
Bocelli
et Hauser.
On poursuit. Vous disiez que ça vous a permis de développer peut-être votre monde, votre intériorité, ce genre d'incident. Vous étiez un grand lecteur à l'école parce que les mathématiques, ce n'était pas nécessairement votre fort.
Ben, c'est-à-dire que les mathématiques, souvent, j'avais une tante qui était enseignante à l'époque et quand j'avais des difficultés, j'appelais ma tante Marthe et je lui soumettais mes problèmes et on discutait, j'allais la voir. Elle était vraiment un ange gardien pour moi de
Excellent.
Ce côté-là. Et moi, après ça, oui, évidemment, on se réfugie dans la lecture, on se réfugie dans aussi...
La poésie.
La poésie.
Verlaine, oui. Rimbaud, Baudelaire, tous ces grands noms.
Oui.
Félix Leclerc chez nous.
Oui, Félix Leclerc aussi.
Oui.
Et ça a été une période aussi qui commençait avec ces nouveaux amis où on écoutait beaucoup de chansons, on écoutait beaucoup d'auteurs à chansons, de chansons françaises à l'époque, les Reggiani et compagnie. On écoutait, je sais qu'Aznavour est revenu à la mode récemment au Québec, mais c'était une période aussi où on découvrait
Brel.
Tout le répertoire Brel, c'est ça, tout le
Ferré.
Répertoire français.
Oui.
Ferré, Brel, évidemment. Comment ignorer toute cette période qui est un peu l'âge d'or de la chanson française?
Oui.
Et,
probablement Brassens, parce que je dois dire qu'on a un technicien qui vient de la région d'Auvergnat.
<C'est à fait.
rire> On connaît bien la chanson de Brassens, n'est-ce pas?
Aussi. Ah oui, c'est un grand poète et un grand... aussi un chanteur humoristique à la fois, mais d'une grande profondeur.
Alors, vous écoutiez beaucoup de chansonniers, chansons françaises. Au plan musical, musique classique, est-ce que vous aviez des compositeurs qui avaient davantage votre préférence?
Oui,
étiez-vous plus Chopin que Beethoven ou plus Beethoven que Chopin?
Je dirais un savant mélange des deux.
Un savant mélange des deux, tiens.
Oui, parce que, en fait, Beethoven, toute la structure, la composition, il m'a beaucoup apporté en termes de création. Je trouve que c'est un modèle éminemment puissant au niveau de la musique, au niveau structurel, formel. Et Chopin, il avait dans son écriture, lui, contrairement à Beethoven, une grande, grande liberté. Et c'était probablement un improvisateur inné qui arrivait à traduire et à écrire ses improvisations aussi. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas structuré. On parle vraiment de deux esprits complètement... différent.
Alors, il pouvait illustrer le vent d'hiver. Il l'a fait avec la 11e de ses 12 études, opus 25, en la mineure. Ça s'appelle « Vent d'hiver » et c'est interprété ici par Maurizio Pollini au piano. Chopin, c'est Chopin, n'est-ce pas?
L'incontournable. L'incontournable. Beauté incontournable.
Donc, vous parliez de poésie, de chansonnier. J'aimerais que vous nous racontiez quelque chose d'assez extraordinaire. C'est votre audition au Conservatoire de musique de Québec. C'est toute une histoire que celle-ci. J'aimerais ça que vous nous la partagiez parce que vous n'êtes pas arrivé là avec un caractère triomphateur. Vous n'étiez pas du tout dans le mode de dire « je m'en vais là, puis je vais gagner, puis non, je vais avoir une place au conservatoire ». Pas du tout, hein?
Non. C'est un grand risque hein, de faire les examens du conservatoire, surtout en composition. Donc, c'était le... Durant l'été qui a précédé tout ça, j'avais écrit une ou deux pièces pour piano. Donc, j'ai présenté une pièce qui s'appelait « Absence », qui était vraiment une pièce pour piano solo. Et j'ai dit, bon, ben je tente ma chance et je veux vraiment faire des études classiques. Et je vais au conservatoire de musique. J'avais déjà des amis qui étaient là. Un ami tromboniste, Evelyn Auger. Des amis aussi en trompette. Et j'ai décidé, moi, de faire de l'écriture. Et je voulais vraiment axer ma présentation sur l'écriture. Donc, j'ai décidé de passer les auditions. Je suis entré au conservatoire et j'étais comme dans les derniers à passer vers 4 heures l'après-midi et tout. J'attends patiemment sur mon fauteuil d'entrée dans la salle d'examen où étaient réunis à peu près 5 juges qui étaient là. Et il y avait un maître de solfège qui était là, Bermond Bérubé, avec une autre dame qui parlait à l'entrée de la porte. Il dit, ah, je te dis que les juges, je commence à être fatigué. Ils sont là depuis 8 heures ce matin, puis là, ils commencent à en avoir assez de leur journée.
Ils ont hâte de partir, quoi.
Oui, c'est ça. Un peu, on sentait un vent de
lassitude.
De lassitude, après une grosse journée d'audition. Alors, je dois avouer qu'en rentrant dans la classe, mes espoirs étaient minces.
Ça fait augmenter le trac à tout le moins.
Oui, tout à fait. Alors, je suis entré, j'ai dit, ben, quel qu'il en soit, advienne que pourra, on y va, on fonce. Et puis, j'ai passé, évidemment, l'examen en présentant mes pièces au piano et tout. Il y a eu une écoute très, très religieuse et tout s'est bien passé.
Alors, tout s'est bien passé. On va poursuivre sur la suite de l'histoire parce que vous allez nous dire pourquoi tout s'est bien passé. Mais auparavant, j'aimerais vous proposer une belle chanson de Michel Fugain. Ça s'appelle « Terra Amata ». On a reçu Fugain à l'émission. C'est une pièce qui peut-être unificatrice, un peu comme peut l'être la musique, qui parle de la terre, de l'importance de la paix, de la protection de la terre et tout ça. Et ça va être suivi ensuite d'une pièce instrumentale ayant pour titre Dam Mangyang. C'est une pièce traditionnelle interprétée par Liu Fang au guzheng et au pipa et de Lise Daou à la flûte. C'est une pièce traditionnelle orientale.
Formidable.
Formidable avec la suite de cette chanson.
Les yeux dans l'eau, la mer à boire, chante l'homme au cœur de sanglots, avec deux accords de guitare et dessus quelques mots, so that si, so that no. Dans la prison de ma mémoire, y'a trop d'amis partis trop tôt. S'il faut fermer les yeux pour voir, j'en ai déjà vu trop. Soldat si, soldat no. Mon radeau. Démocratie, mon ami, fille à peau noire, viens danser sur mes pays chauds. Un tiers du monde abandonné, c'est bien trop cher payé. Soldat de qui, soldat d'aller. L'exil est comme unilatère. Fais de ta rage mon bateau, ma terra amada. Brise mes chaînes ou brise ma voix. L'exil est comme unilatère. Fais de ta rage mon combat. Terra Amada. Du, 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 du. l'île comme une île à terre. Fais de ta rage mon combat. Fais de ta rage mon combat.
Alors, on vient d'entendre Liz Daou à la flûte avec Liu Fiang. C'est très, très... On se sent vraiment dans un monde oriental. C'est très mélodique, c'est très doux pour l'âme, j'oserais dire.
Oui, c'est comme une prière.
Comme une prière.
Lorsqu'elle joue Liu Fiang, c'est incantatoire. On est dans un monde. Elle a ce don extraordinaire de nous transporter.
Parfait. Alors là, on va revenir à votre audition. Vous avez terminé en disant que finalement, tout s'est bien passé. Pourquoi tout s'est-il bien passé?
3 points de suspension. Ça a été, une révélation parce que je me suis rendu compte que finalement, les juges, c'est des êtres humains, des gens extraordinaires et qui me posaient des questions sur ce que j'aimerais faire et que si ça ne fonctionnait pas, par exemple, du point de vue carrière, qu'est-ce que j'aimerais? Je leur dis simplement là-dessus, ben moi, j'aimerais beaucoup transmettre ma passion pour la musique. J'aimerais enseigner, j'allais vers ce type de réponse-là. Mais ils m'ont dit, c'est étonnant, ce morceau que vous avez créé, ça nous fait penser beaucoup à la musique russe. On croirait que c'est Scriabine. Il y a un peu une influence de Tchaïkovski, il y a un peu aussi un côté très Beethoven dans votre écriture. Et naturellement, c'était des influences que j'aimais.
Mais c'est très flatteur. C'est très flatteur.
Oui, j'étais très heureux de la réaction. Puis là, soudainement, c'est pas ce qu'on m'avait dit. J'avais des amis qui m'avaient dit, tu vas le savoir, ils vont t'envoyer une lettre et tu sauras si t'es accepté, etc. Et j'ai dit, non, je vais pas passer l'été à attendre ça. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé finalement. Je l'ai su immédiatement après l'audition. Ben, on vous attend en septembre. Voici,
incroyable.
On vous a fait tel programme. Vous allez faire telle classe, l'harmonie, clavecin, instrument secondaire, piano, instrument principal, écriture, harmonie, solfège, dictée, etc., analyse musicale. J'avais non seulement mon acceptation, mais j'avais tout mon programme d'études qui avait été complété. Et je ne voudrais pas oublier Histoire de la musique.
Oui.
Voilà. Et je me souviens d'être parti le cœur tellement léger que j'ai monté les trois marches d'escalier du conservatoire vers la sortie comme un éclair.
Pour emprunter au monde oriental, vous étiez probablement dans un état de lévitation.
Oui, ou d'euphorie profonde.
Alors, on va maintenant aller entendre le quatrième et dernier mouvement de ce merveilleux concerto pour pipa et orchestre Dragon que vous avez composé. Cette fois, ben là, le dragon, il a atteint la maturité. On en est où dans son évolution?
C'est vrai que je voyais dans le quatrième mouvement, c'était la consécration du dragon empereur. Après cette première victoire, il sait que ça sera à recommencer de toute façon, mais on vient de partout. On vient de toutes les régions. On lui apporte des présents. On le salue. C'est comme une espèce de procession. On vient le remercier. Et c'était un peu pour moi comme un chant, un peu comme une ode à la joie. Mais à ma façon et à la façon de mon mélange occidental et oriental, je voyais ça comme une espèce de
consécration.
De consécration, de paix et de remerciement.
Thank you.
Eh bien, ça conclut l'ensemble de l'œuvre. On a entendu au cours des deux dernières semaines les quatre mouvements de ce concerto pour pipa et orchestre composé par notre invité, Christian Thomas. Chapeau, parce que c'est une œuvre vraiment étonnante. Étonnante parce qu'on n'est pas très habitué d'entendre ce genre de concerto. Et c'est très, très, très beau. Ça rejoint quelque chose à l'intérieur de nous. On parlait d'intériorité tantôt. Je pense qu'on est touché par cette musique de manière différente, hein, parce que chacun la reçoit comme on peut la recevoir à partir de nos vécus respectifs. Mais c'est une musique qui va sûrement demeurer présente. Comme vous le disiez, c'est une forme d'ode à la joie.
Vous êtes très gentil. Écoute, ça me touche infiniment ce que vous en pensez, ce que vous me dites en ce moment. Et je suis heureux et chanceux d'avoir eu le support de GFN, du chef Francis Choignard, qui est un très, très grand coloriste, un chef admirable, oui. D'avoir eu tous ces musiciens d'orchestre qui sont joints à nous, à Liu Fang et à moi, et notre productrice aussi, Lily Luo, qui a endossé ce projet, qui l'a produit. Ça coûte beaucoup de sous. C'est une merveilleuse tribune
d'avoir un enregistrement. Mais là, j'espère que, nonobstant les sous que ça coûte, oui. Que vous allez continuer d'être prolifique, que vous allez nous offrir d'autres belles créations de ce genre. Continuez de nous surprendre. On va tous être ravis de cela. On vous découvre pour bien du monde. Christian Thomas, c'était pas quelqu'un de très connu. Pourtant, vous êtes présent, omniprésent, on l'a vu sur la scène, avec les musiques théâtrales. Mais souvent, les musiciens sont ceux qu'on connaît le moins, n'est-ce pas?
On est un petit peu parfois dans l'ombre.
Vous êtes souvent dans l'ombre.
Et en même temps, au moment où on se parle, en ce moment, je vais aller à New York pour créer ma sonate pour violoncelle et piano avec une merveilleuse musicienne qui s'appelle Noémie Raymond et une pianiste Zenny Lee Cohen qui vont interpréter ma première sonate au Carnegie Hall à New York.
Alors, bon succès avec ça. Merci infiniment d'être passé chez nous. Et puis, vive la musique, quoi.
Merci de tout cœur de m'avoir reçu et vive la musique, comme vous le dites.
Le si temps bien. De vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision magnifique de Lysandre Duplay, Armand Dubois, la réalisation et l'animation, qui vous donne rendez-vous pour la suite à notre antenne. D'autres émissions vont suivre. Et au gré du temps, prenez quelques minutes pour écouter la musique de Christian Thomas. Ça vaut le détour. Juste un mot, j'avais oublié d'ajouter qu'on va se quitter avec le thème. La musique qu'on entend derrière nous, c'est une musique qui a pour titre « Lotus émergeant de la surface de l'eau ». C'est interprété par Liu Fang et ça a été composé par elle. Alors, c'est un beau thème de fermeture, n'est-ce pas, M. Thomas?
Une très, très belle découverte. Et puis, l'album aussi qu'on vient de faire est disponible sur le marché. Vous pouvez vous le procurer sur le site de Forte Art Musique et puis sur toutes les plateformes.
Merci beaucoup.
Dragon.